S'arrêter. Prendre le temps d'écouter. Sonographie marseillaise. Une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne.
Radio Grenouille.
Euphonia.
Et Manifesta 13.
Bonne écoute. Ce monde qui nous inspire à la croisée de l'art et de la science.
Thierry Gauquelin, professeur à Aix-Marseille Université et membre de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie, qui est un laboratoire qui s'intéresse donc au fonctionnement des écosystèmes et notamment au sol en milieu méditerranéen.
Bernard Misraki,
Madeleine Fiche,
artiste, groupe Dune.
Alors la biodiversité dans le sol, c'est vrai qu'on parle souvent de la biodiversité en général, mais donc on parle souvent évidemment des grands mammifères, des animaux emblématiques, mais on oublie souvent qu'une part importante de la biodiversité eh bien, se trouve dans les sols. C'est une partie fondamentale, avec un très très grand nombre d'organismes, alors qui vont des micro-organismes, on va dire, jusqu'aux vers de terre, et puis on pourrait rajouter les petits rongeurs, etc. Et cette biodiversité, qui est encore relativement méconnue, eh bien, joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est peut-être celui, finalement, par exemple, en milieu forestier, de la décomposition des litières. Une fois qu'une feuille tombe au sol, eh bien, cette feuille elle est prise en charge par un certain nombre d'organismes, des bactéries, des champignons, des sortes d'insectes qui sont les colamboles, des sortes d'araignées qui sont les acariens. Et tout ça se met allègrement à consommer, à manger toutes ces petites feuilles, à aussi permettre de diffuser les bactéries, les champignons. Et du coup, eh bien, ça permet à cette litière, à ces feuilles, de se décomposer pour une partie de donner de l'humus, donc qui va s'incorporer au sol, et puis pour une autre partie, de donner du CO2, parce que tous ces petits organismes vont respirer. Du coup, ça permet quoi ? Eh bien, ça permet simplement de remettre à disposition du sol des éléments minéraux, notamment, qui étaient accumulés dans ces feuilles. Et on comprend bien que si on n'a pas ces organismes, le système, il est complètement bloqué. Et du coup, eh bien, fonctionnement normal d'un écosystème forestier avec donc décomposition de la litière, remise à disposition des éléments minéraux qui vont ensuite repartir dans l'arbre, ensuite se retrouver dans les feuilles et tomber, eh bien, tout ce cycle qu'on appelle un cycle biogéochimique va en quelque sorte être court-circuité. Et donc on voit toute cette importance de cette faune du sol. Alors la mésofaune, c'est une partie de cette biodiversité du sol. Très schématiquement, on va avoir des organismes de très très petite taille, c'est les micro-organismes, des bactéries, des champignons. Ensuite, on va avoir la mésofaune, donc des organismes d'une taille plus importante, mais qui ne dépassent jamais quelques millimètres. Ce sont les colamboles, les acariens, etc. Et puis on aura des organismes dans le sol d'une taille un peu plus importante, par exemple les vers de terre, qui jouent un rôle aussi considérable dans le fonctionnement du sol. Alors les vers de terre, c'est passionnant, les vers de terre, parce que Darwin en avait parlé déjà donc, au 19e siècle. Il avait d'ailleurs fait un livre dont beaucoup de gens s'étaient moqués à l'époque pour montrer toute l'importance des vers de terre. Il avait dit, ces organismes, eh bien, ils ont une importance, malgré leur niveau d'organisation relativement inférieur, ils ont une importance énorme dans le fonctionnement des choses. C'est ce qu'on appelle aussi des ingénieurs du sol, parce que notamment un vers de terre, et notamment une sorte de vers de terre qu'on appelle les vers de terre anéciques, eh bien, c'est des vers de terre qui font le yo-yo entre la surface du sol et la profondeur. Ils vont aller en hauteur, à la surface, ils vont consommer des feuilles, et puis ensuite ils vont partir en profondeur, ils vont consommer aussi de la terre, ils vont remonter à la surface, ils vont libérer des sortes de fesses qu'on appelle des turicules de vers de terre, vous savez, tous ces petits tortillons qu'on trouve à la surface. Et du coup, eh bien, ils mélangent matière organique, matière minérale, ils structurent le sol d'une façon considérable. Alors évidemment, la biodiversité du sol, elle est menacée par l'agriculture intensive, donc l'usage des pesticides, des fongicides, etc. C'est évidemment assez catastrophique parce que le fonctionnement, disons, normal des sols est très affecté par ça. Et donc, première chose, il faut essayer un petit peu de restaurer cette biodiversité, mais il y a même des opérations qui visent à réintroduire, par exemple, des vers de terre dans des espaces cultivés pour retrouver un fonctionnement un petit peu meilleur. En forêt, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui peuvent aussi modifier considérablement cette faune du sol, des opérations sylvicoles. Je pense notamment, par exemple, aux coupes à blanc, qui sont fortement décriées à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand une forêt s'est développée, eh bien, normalement, c'est ce qu'on appelle des futaies régulières. On va couper l'ensemble des arbres et donc on va retrouver une forêt qui n'aura plus d'arbres, où le sol sera complètement à nu, ce qui constitue une perturbation majeure qui peut influer aussi, qui influe déjà beaucoup sur la biodiversité du sol et le fonctionnement de l'écosystème.
Groupe Dune, c'est une structure qu'on a créée pour produire un certain nombre d'événements artistiques. Au début, c'était des spectacles de danse contemporaine. Après, ça a été des installations multimédia. Et on a beaucoup travaillé sur la ville et sur l'espace que l'on habite. Et puis un jour, on s'est aperçu que dans cet espace, il y avait un peu de nature. Donc on a commencé à s'intéresser à la nature. Les questions écologiques prenant de plus en plus de place dans le paysage urbain, on s'intéressait à ces questions. Et donc on a eu envie d'aller voir de plus près ce qui se passait, ce qui pouvait se passer avec la nature. C'est comme ça que petit à petit, on a rencontré des architectes, bien sûr, des paysagistes et puis aussi des écologues. Le rapport à la science, en fait, on a toujours trouvé que dans le langage des scientifiques, pour nous qui n'y connaissions rien, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la poésie, qui nous procurait beaucoup d'émotions. Et donc on s'est intéressé aussi au langage des scientifiques, qu'ils soient mathématiciens ou écologues. Et quand on a rencontré les écologues et qu'on a entendu leur manière de décrire les plantes, ben on était tout simplement en admiration. Et puis émerveillé. Nous, on est un peu comme des enfants qui trouvent un petit chou dans une vitrine et on dit « Oh, comme elle est belle, j'aimerais bien la voir ». Et quand on a vu les colamboles, c'est un peu ce qui s'est passé, en fait. On a eu une grande émotion spontanée comme ça, se dire « Voilà, c'est cette petite bête qui fait que le sol est vivant, qui fait qu'on peut faire pousser des plantes, qui fait qu'on peut nourrir la planète, qui fait toutes ces choses. Voilà. »
Oui, alors les colamboles, ben, ça fait partie des arthropodes. Hein, donc c'est très proche des insectes, comme les insectes, ça a 6 pattes, hein, contrairement par exemple aux araignées qui en ont 8, hein, tout le monde sait ça. Et ces petits colamboles, eh bien, qui font au maximum quelques millimètres, eh bien, il y en a une très grande diversité. Alors certains de ces colamboles ont une particularité, c'est d'avoir à l'extrémité de l'abdomen ce qu'on appelle une furca, c'est-à-dire un petit organe qui leur permet de sauter pour s'échapper de leur prédateur. C'est-à-dire qu'un colambole, eh bien, notamment ceux qui ont des furcas, peuvent faire des bonds, des petits saltos arrière d'environ 50 à 60 cm de haut. Et on a calculé, c'est comme si vous, ayant peur d'un ennemi, vous faisiez un saut de 200 ou 300 mètres. Alors on ne sait pas comment ils retombent sur leurs pieds, mais, et ça on peut le voir d'ailleurs, hein, en observant bien un sol forestier, on peut voir ces petits colamboles qui sautent pour échapper à leurs ennemis.
Alors, dans notre travail, on avait toujours envie d'essayer de montrer ou d'attirer l'attention du public sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder habituellement. Notamment tout ce qui est banal dans l'espace urbain, qu'on a tendance à déprécier, à dédaigner dans le regard. Donc, on a toujours essayé de travailler, de montrer des choses ou d'une façon inhabituelle, de manière à provoquer un étonnement sur des choses qu'on a l'impression de connaître, mais qu'on considère peu. Voilà. Et quand on a vu les Colamboles, pour nous, il y a eu cette même sensation, finalement, d'être en contact ou face à quelque chose qu'on côtoie tous les jours. Hein, on marche dessus, on regarde, on a l'impression de connaître, et puis, tous ces organismes vivants, ils sont là, on les voit pas. Et si on les voit pas, on les considère pas. Et si on les considère pas, on pense que c'est pas important. Voilà. Donc, on avait envie de montrer toute cette vie. Il y a des Colamboles qui sont vraiment mignonnes. Enfin, j'ai un problème parce que je parle des Colamboles au féminin, alors que c'est masculin. Mais j'arrive pas à m'y faire. Mais c'est un peu comme ça, ouais.
Nous, on a l'habitude de mettre en scène on appelle ça des machines à voir, des dispositifs d'observation sur des échelles souvent très différentes. Donc là, on est un peu parti de ce principe-là, en discutant aussi avec Thierry, sur le principe de reconstituer un sol vivant dans une espèce d'aquarium, avec toutes les couches, et d'y intégrer ou de laisser émerger les organismes vivants, et autour de ça, de mettre un principe d'outils d'observation, de caméras microscopiques, de capteurs d'humidité, enfin voilà, pour essayer de rendre compte de ce qui se joue dans cette matière dont on est dépendant.
Quand on regarde, c'est un habitat, c'est l'habitat de ces petites bestioles, donc c'est un espace aussi, il y a des paysages. Il y a beaucoup de choses à découvrir. On a commencé par s'intéresser aux Colamboles et puis en se promenant, parce que finalement, on va aussi mettre en scène des petites mottes de terre qu'on récupère comme ça, n'importe laquelle. Et Thierry pourra vous dire ce que contient un kilo de sol. Tu peux le dire peut-être.
Oui, non, mais c'est des chiffres absolument vertigineux. Dans un kilo de sol, on peut avoir plusieurs dizaines de milliers de Colamboles, plusieurs dizaines de milliers d'acariens, etc. Évidemment, des milliards de bactéries, des kilomètres de filaments de champignons, etc. C'est des chiffres qui dépassent un peu l'entendement.
Et puis, cette idée aussi d'aller dans le microscopique, c'est aussi de découvrir des paysages un peu inédits qui à la fois mêlent l'extrême concret et puis des formes abstraites. Et ça nous plaît bien aussi de poser aussi cette façon de regarder, quoi. Comment on peut passer de l'un à l'autre dans une même forme, quoi.
C'est un projet qui est prévu pour la journée, le Congrès mondial de la nature, qui devait avoir lieu à Marseille au mois de juin 2020, qui a été reporté en janvier 2021 et qui est à nouveau reporté pour une date inconnue. On en parlait ce matin, les chercheurs comme les artistes, on n'a pas peur de... Enfin, on a même ce goût pour l'incertitude et l'approximation. Donc voilà, c'est pas gênant. De toute façon, les passions sont là, le désir est là.
Donc le titre de cette installation, c'est Les Invisibles ou la fabrique du sol, ce qui nous lie. Et donc évidemment, dans ce lien-là, il y a cette notion de quelque chose qui est d'une importance extrême pour nous, pour les êtres humains. Et donc qui, comme l'air, l'eau et d'autres éléments, est un peu la condition du vivant, quoi. Donc dans lequel auquel on fait partie.
Ce monde qui nous inspire. Une série de rencontres à la croisée de l'art et de la science, co-réalisée par Radio Grenouille Euphonia et l'Institut PTS. Équipe de réalisation, Chloé Despax, Marine Sahabi Gomi et Jean-Baptiste Imbert. Sonographie marseillaise. Une constellation de créations sonores. À découvrir dans la cité phocéenne.
Radio Grenouille,
Euphonia
et Manifesta 13.